Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, en ce 13 septembre, Saint Jean Chrysostome. C'est un des personnages les plus importants de l'histoire de l'Église, plus particulièrement de l'Église grecque, de celle qu'on appelle l'Église orthodoxe aujourd'hui. Il a été patriarche de Constantinople, mais il était patriarche de Constantinople à l'époque où l'Église d'Orient, ainsi l'appelle-t-on, l'Église d'Orient, c'est-à-dire de l'Europe orientale, disons, avec son siège à Constantinople, c'est-à-dire à Istanbul, cette ville de Turquie. Je ne dis pas la capitale, puisque la capitale aujourd'hui, c'est Ankara. Et il n'y a presque plus de chrétiens à Constantinople, d'ailleurs. Et le patriarche de Constantinople est toujours là comme le signe et le symbole de l'unité des différentes églises dites orthodoxes, qui se sont séparées de l'Église catholique, ou eux disent que l'Église catholique s'est séparée d'eux en 1056. Donc, tout ça se déroule bien longtemps avant, puisque Jean Chrysostome est né en 349, à l'époque où, donc, tous ces chrétiens étaient unis. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Et Jean Chrysostome, c'est un nom qui signifie tout simplement « bouche d'or ». Pourquoi « bouche d'or » Il avait des talents oratoires absolument phénoménaux. Très souvent, les foules applaudissaient quand il parlait. Pourtant, c'était un homme malingre et petit. Un homme qui a souffert toute sa vie, d'ailleurs, de différentes petites maladies qui l'affectaient, particulièrement l'estomac. Et ce don de la parole a été mis au service de la grande parole, de la parole de Dieu. Il a toujours voulu transmettre la parole de Dieu. C'était un homme qui lisait au besoin toutes les épîtres de Saint Paul en une semaine, très souvent. Il s'en inspirait. Il était passionné des épîtres de Saint Paul et ça le dynamisait. Il avait un courage que nous trouvons chez tous les premiers pères et docteurs de l'Église, d'ailleurs. Les pères de l'Église, je vous le rappelle, pour ceux qui seraient moins au courant, là, qui nous écoutent depuis très peu de temps, ce sont les grands auteurs, les grands prédicateurs, les grands spécialistes de la Bible et de la doctrine de l'Église, qui ont été considérés comme des pères de l'Église, et les docteurs de l'Église aussi. Alors, tout ça, ça l'a amené, ce courage, à dénoncer la corruption de la cour de Constantinople, où il y avait des gens qui se conduisaient vraiment plutôt mal. On a vu ça dans les cours européennes, la même chose, et on voit ça actuellement à la cour d'Angleterre, et c'est bien pénible. Ça lui a valu deux fois d'être exilé. Oui, on allait jusqu'à l'exiler, parce qu'il disait ce qu'il fallait dire. Est-ce que c'est pas ce que souhaiteraient certaines personnes avec le pape actuel, qui ose dire ce qu'il faut dire, qui prêche comme Jean Chrysostome, mais peut-être n'a-t-il pas la jeunesse, l'ampleur, la vastitude dans le timbre de la voix et la façon de parler, mais ce qu'il dit, quand on le lit ou qu'on l'écoute attentivement, mérite vraiment d'être entendu. Je vous rappelle que le magazine Time l'a nommé homme de l'année il n'y a pas si longtemps, parce qu'il était un homme debout, Jean-Paul II. C'est un homme debout. Cette attitude, chez Jean Chrysostome, comme chez Jean-Paul II, et tous les prophètes, et tous ceux qui disent vraiment ce qu'il faut dire, c'est inspiré par l'amour. Un amour qu'il porte à ceux qui se livrent à toutes ces pratiques immorales, et qui savent être si malheureux, si malheureux. On ne se conduit pas dans l'immoralité sans être malheureux. Croyez-vous que les femmes avortent leurs enfants et qu'elles trouvent ça drôle? On dira que certaines semblent n'y attacher aucune importance. J'ai souvent peine à croire que ce soit le cas en tous les cas pour toutes. Est-ce qu'on peut vraiment désirer la mort de certaines personnes facilement? Est-ce qu'on peut vraiment voler, trafiquer de la drogue et réduire des vies à néant? Est-ce qu'on peut voler quand on est commerçant sans se rendre compte qu'on abuse et que les richesses ainsi accumulées ne sont que source de tourments et de malheurs? Est-ce qu'on peut abuser de l'amour de sa femme ou de son mari, négliger l'éducation de ses enfants sans être malheureux? Et eux, ces grands prédicateurs, ont cherché à reprendre les abus. Même chez les hommes d'église, même chez les prêtres, ils ont travaillé à réformer les mœurs de la cour, mais ils ont aussi cherché à transformer leur clergé. Et Jean Chrysostome, c'est ce qu'il a fait. Avec l'abondance d'un cœur d'or, il a prêché la charité, surtout envers les plus pauvres, les marginaux de son temps. Je vous rappellerai tout à l'heure qu'il disait, parce que je tiens à le dire deux fois, « Mettez donc Dieu au rang de vos esclaves. Libérez le Christ de la faim, de la nudité et de la prison. » Étrange langage. Mettre Dieu au rang de ses esclaves, ça rappelle cette parole de Jésus, « Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. » Quand vous êtes venu en prison, c'est moi que vous avez consolé. Alors libérez le Christ de la faim, de la nudité et de la prison. C'est ce qu'il demande. Jean Chrysostome, qui avait cet immense talent oratoire, est né vers 344 à Antioche, une ville de Turquie. Ça a appartenu à la Syrie entre, je pense, 1920-1940, à peu près, là. Ou 1919-1939. Le père de Jean Chrysostome s'appelait Secundus, ou Second, si vous voulez. Il était donc probablement le deuxième fils de sa famille. C'est un officier militaire en Orient. Il est mort jeune, peu de temps après la naissance de Jean. Et c'est donc sa mère, Antuse. Quel étrange nom. On a dû avoir nos grands-mères qui s'appelaient Antuse en l'honneur de la mère de Jean Chrysostome, n'est-ce pas, au siècle dernier. J'avais une grand-mère qui s'appelait Exérine, vous imaginez. Et alors, cette veuve de 20 ans a éduqué son fils. Elle avait une sœur aînée dont... Jean avait une sœur aînée plutôt dont on ignore le nom. Mais on est sûr que ses parents étaient chrétiens. Et sa mère, Antuse, n'a pas voulu contracter un nouveau mariage. Elle s'est adonnée tout entière à l'éducation de ses deux enfants. Et Jean Chrysostome lui-même, dans un sentiment de grande reconnaissance filiale à l'égard de sa maman, a dit que ce fut le dévouement inépuisable puis l'affection éclairée de sa mère qui l'a tant aidé. Elle s'est préoccupée de lui donner les meilleurs maîtres, en même temps qu'elle assurait la pureté de sa foi. Elle s'occupait de sa foi. Ce qui n'est pas facile, on le sait. Les enfants sont distraits quand on leur parle de Dieu et de la religion souvent. Mais pas nécessairement. Ça dépend de la façon. Et plus tard, elle l'a déchargée de tous les soucis matériels, parce qu'elle a préféré gérer elle-même l'héritage qu'il avait reçu de son père. Elle n'a pas eu, comme sainte Monique, à surveiller et à corriger les écarts de la vie de saint Jean Chrysostome. Sainte Monique, on sait, elle a eu à corriger saint Augustin avant qu'il ne devienne saint Augustin, justement parce qu'il se conduisait plus ou moins mal. Vous savez qu'il avait une maîtresse, il a eu un enfant, Augustin, avant de se convertir. Puis, elle n'a pas eu autre chose qu'à suivre le développement de cette âme, de son enfant, qui était une âme plutôt candide. Elle a dû lutter à un certain moment contre une certaine ardeur qui l'entraînait à se faire moine. Elle a obtenu que ce projet de se retirer complètement du monde soit différé jusqu'après sa mort. Elle ne voulait pas vraiment s'en séparer. Elle l'aimait beaucoup. C'était son seul fils. Et elle figure au premier rang parmi les grandes chrétiennes qui ont illustré le IVe siècle. Un des maîtres de Jean Chrysostome lui aurait un jour exprimé son admiration pour sa mère. C'est donc dire, vous les mères qui m'écoutez, l'importance de votre rôle. Vous ne serez pas importante parce que vous conduirez un autobus ou parce que même vous serez médecin ou architecte. C'est pas ça qui donne l'importance à un homme ou à une femme, ni même être animateur à Radio-Île-Marie. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est d'être capable d'aimer ceux qui nous sont confiés, puis de les aider à être heureux, c'est tout. C'est l'essentiel. Et à Antioche, donc en Turquie, Jean a pu étudier l'éloquence sous le grand maître païen Libanius. Ça fait que quelques-uns ont contesté, c'est un fait que certaines personnes ont contesté, ça, c'est pas sûr, mais de toute façon, ça n'a guère d'importance. On sait qu'il s'était donné à l'éloquence, avec enthousiasme, ça l'a transformé en bouche d'or, en chrysostome, en grand orateur. Cette passion pour les lettres n'a pas laissé dans son âme des traces très très profondes. C'est pas la littérature en tant que telle qui l'a intéressé. En compagnie de sa mère, une chrétienne fervente, Jean Chrysostome, tout jeune, ajoute son intérêt avec sa mère pour l'Évangile, la lecture de l'Évangile, il l'étudie. Puis il se fait baptiser, à l'âge adulte, par l'évêque Mélès, qui est évêque d'Antioche, de la ville où il vit. Il subit l'influence de Mélès. Mélès, ça s'écrit M-E accent aigu, L-E accent grave, C-E. C'est un homme d'action plutôt qu'un théologien. Et puis, il reçoit aussi l'influence d'un homme qui va devenir évêque de Tarse, vous savez, cette ville qui est renommée à cause de Saint-Paul, Saint-Paul de Tarse, qui s'appelait Diodore, et qui préconisait, dans l'étude de la Bible, la recherche du sens historique de préférence à l'allégorie. Et puis, ça a calmé un peu les transports de Chrysostome, parce qu'il faut pas trop faire de la littérature autour de la Bible. Mais c'est bon d'en connaître aussi les sens symboliques. Il a reçu aussi l'influence de Carterius, un personnage moins connu, qui était soucieux d'exercer sur les jeunes gens des pratiques de discipline, de contrôle de soi-même, ce qu'on appelle des pratiques ascétiques. Et c'est très bon pour un jeune. C'est ce qu'on donne dans certaines écoles où ça coûte très très cher. Vous savez qu'en Angleterre, il y a des écoles où ça coûte jusqu'à 25 000 $ pour y mettre son fils de 14 ans. Et ça, c'est les princes vont là, les fils des ducs et puis les gens très très riches. Mais il y a des pratiques ascétiques, tant dans les sports qu'ailleurs. Et pendant l'exil de l'évêque Mélès d'Antioche, il a été exilé, la communauté d'Antioche était gouvernée par un prêtre qui s'appelait Flavien, qui va devenir évêque. Et peu d'années après son baptême, Jean se sent tiré vers la solitude. Ça le reprend, la vie monastique. Une tendance que favorise d'ailleurs son ami Basile, qui sera évêque lui aussi, et à laquelle il aurait cédé d'ailleurs, si sa mère ne l'avait pas incité à rester dans le monde avec elle. « mon fils, lui disait-elle. Ne me laissez pas veuve une seconde fois. Attendez au moins le jour de ma mort. Quand vous m'aurez fermé les yeux, vous pourrez choisir telle façon de vivre qui vous plaira, mais pendant que je respire encore, supportez, je vous en supplie, ma présence. » Et alors, il était vaincu par les larmes puis les supplications de sa mère. Et Jean Chrysostome n'a pas quitté Antioche. Il est resté sous le toit maternel, puis il a accepté l'ordre, on appelle ça l'ordre de lecteur, hein, qui l'attachait donc au clergé séculier. C'était en 376, et sa réputation de science, d'éloquence, de sainteté n'a pas tardé à se répandre. Il a été avec le prêtre Flavien, le consolateur des gens qui avaient beaucoup de chagrin, qui étaient en difficulté. Et puis, il a été le soutien des gens qui marchaient dans les voies de la vérité. Il était un directeur d'âme. Et sans cesser d'être en relation avec son ami Basile, il a gagné à Jésus-Christ de nouveaux disciples, comme certains qui sont devenus fameux, Maxime de Séleucie et Théodore de Mopsueste, dont je vous ai parlé l'autre jour. Et un incident se place ici où Jean, comme du reste, il le reconnaît lui-même, a manqué à une certaine parole donnée. Il y avait un sens de l'humour qui est un peu délicat, vous allez voir, hein. Le bruit s'était répandu dans Antioche que l'on cherchait son ami Basile, et lui-même, pour les élever tous les deux à la dignité d'évêque. Alors son ami Basile est venu lui demander d'agir, de concert avec lui, pour qu'ils puissent fuir tous les deux puis échapper à ce fardeau épouvantable. Mais c'est pas drôle d'être évêque. Il y a des gens qui rêvent d'être évêque. quand même. Alors, ne voulant pas priver l'Église d'un évêque comme Basile, parce que Jean appréciait beaucoup les qualités de Saint Basile, eh bien, Saint Jean Chrysostome a pris la décision, écoutez-moi ça, de persuader son ami que rien ne le pressait de prendre la fuite, tandis que lui-même, Jean, lui se cachait. Sans rien dire à Basile, il s'est allé se cacher. Et quelques jours se sont passés pendant lesquels Basile est demeuré en repos dans sa maison, tout le monde le savait. Puis il a alors été invité à se rendre à l'église, puis là on lui a raconté que Jean, son ami, avait consenti à se laisser sacré évêque et qu'il devait céder lui-même, Basile. En entendant cela, Basile a accédé. Mais quand, après sa consécration comme évêque, il a appris que Jean n'avait pas été sacré évêque, il est allé s'en plaindre amèrement à son ami Jean, qui s'est félicité du stratagème employé pour échapper à ce terrible fardeau de l'épiscopat, tandis qu'il avait agi de façon à en charger Basile. Cet incident, blague qu'il a joué à son ami Basile, si on peut dire, a fourni à Saint Jean Chrysostome l'occasion de composer son traité du sacerdoce. C'est l'un de ses plus beaux ouvrages. Il y a une élévation de pensée fantastique là-dedans. Il sait joindre le charme et la grâce pour désarmer, si on peut dire, la colère plutôt amicale de Basile. Son but véritable, c'est d'y exposer de façon claire les devoirs et les fonctions et du prêtre et de l'évêque. Et alors, peu après, vers 374-75, il réussit à réaliser son rêve de vie monastique car sa mère, Anthuse, venait de mourir. Alors il se retire dans les montagnes voisines d'Antioche, pas tellement loin de sa ville. Et dans son livre à Démétrius, et aussi plus tard dans ses homélies, il a décrit cette vie qu'il a menée pendant 4 ans. Mais une maladie d'estomac dont il souffre toute sa vie l'oblige à rentrer à Antioche. Certains disent qu'il a été moine pendant 6 ans, de 375 à 381. Ces années-là l'ont mal préparé aux fonctions de prêtre et d'évêque, disent certains. Pourtant, il est l'auteur du livre sur le sacerdoce, qui est composé précisément à l'heure où Jean Chrysostome rentre en scène comme membre du clergé d'Antioche. Hein? Et son livre est très bien fait. Et à coup sûr, Jean Chrysostome, en sortant de la solitude, a conscience des devoirs qui lui incombent dans l'exercice du sacerdoce. Ce ne sont pas de minces devoirs que ceux du prêtre et ceux de l'évêque. Hein? Il décrit Saint Jean Chrysostome avec une grande précision de détail les difficultés contre lesquelles les prêtres ont à lutter, puis donne d'excellents conseils pour en triompher. D'ailleurs, en ce qui concerne l'évêque, il combat, et c'est très sympathique à lire, il combat 2 excès et 2 tendances opposées chez les évêques. Tenir peu de compte pour le choix d'un pasteur, de la préparation professionnelle, en pensant que l'ordination va suppléer au talent. Hein? Comme si on pouvait choisir un peu n'importe qui comme évêque, et puis on se dit, en le consacrant, les qualités vont surgir. Et deuxièmement, il dit, risquer de s'attacher à la forme plutôt qu'au fond. En somme, s'occuper des apparences et oublier l'Évangile. Des évêques s'occupent de leur mitre, de leurs crosses, de leurs beaux vêtements, des belles photos, de l'impression qu'ils laissent, du ton solennel qu'ils utilisent, pour dire des choses plutôt banales, mais sympathiques, et se rendre charmants, mais ils oublient l'Évangile. Ils oublient ce pourquoi ils sont évêques. Et sûrement, comme il en fait l'aveu, Jean Chrysostome, en sortant de la solitude, avait encore bien des imperfections, mais il a retrempé son âme dans les dures austérités. Il a fait une provision d'énergie, il est plein de zèle, d'éloquence et de charité, et la plus belle période de sa vie va commencer. Alors, de retour à Antioche, il est en 381 ordonné diacre par l'évêque Mélès, qui est revenu d'exil, et puis, après la mort de Mélès. En 386, l'évêque Flavien, son successeur, l'ordonne prêtre. Alors s'ouvre la période où se manifeste son grand talent oratoire et le don d'agir sur les âmes pour les diriger. Je vous donne un petit exemple de sa prédication, un sermon sur la vanité. Qu'est-ce donc la grandeur humaine? C'est le songe d'une nuit, et tout s'évanouit avec le jour. Ce sont les fleurs printanières. Le printemps est passé, et tout est fané. Il dit aussi, dans une lettre, « Comme le feu purifie l'or à son contact, l'épreuve, lorsqu'elle tombe sur des âmes d'or, les purifie également. » Alors, la première homilie prononcée par Saint Jean Chrysostome, presque au lendemain de son ordination, témoigne de son humilité puis de sa modestie, et pendant 12 années consécutives, soit de 386 à 398, il parlera au peuple d'Antioche avec un talent inépuisable, une préoccupation constante de combattre toutes les faiblesses et toutes les superstitions. Antioche, dans la première moitié du IVe siècle, a servi de résidence aux empereurs. À la fin de ce même siècle, après Constantinople et Alexandrie en Égypte, n'est-ce pas, la ville la plus considérable de l'Orient, de ce qu'on appelle l'Orient, et sa population à majorité chrétienne, en Turquie, ça. Vous savez, ces pays-là étaient chrétiens, la Turquie, la Syrie, tous les pays d'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il y avait plus de 450 évêques, imaginez, avant que les musulmans n'arrivent, là, au 7e siècle. Sa population, donc, en majorité chrétienne, compte environ 200 000 âmes. Et longtemps déchirée par des querelles entre ariens et catholiques, les ariens qui ne croyaient pas à la divinité du Christ, bien, s'est montré sous Julien l'Apostat, le fameux Julien l'Apostat, qui était énergiquement attaché à sa foi. Et Jean Chrysostome était énergiquement attaché à la foi catholique orthodoxe. Il y a des dissentiments dans les membres de la communauté. Et Mélès, bien qu'exilé pour sa foi, s'est trouvé en face d'un parti qui était exalté. Et là, les querelles prennent. Et ça n'est pas facile. J'évite de vous raconter tout ce qui s'est passé entre l'empereur Théodose avec Saint Jean Chrysostome, les querelles aussi avec l'empereur Arcadius et sa femme Eudoxie. C'est pénible. On peut dire en tous les cas que les 10 années de prédication à Antioche sont pour Jean Chrysostome 10 années d'un travail plus obscur, mais aussi fécond. Son but est la réforme générale de la société chrétienne par la lutte contre le relâchement et le retour à la pratique de la règle évangélique. Il est plus moraliste que théologien. C'est pas un théologien spéculatif, comme on dit, qui spécule, qui joue presque avec des blocs pour être un peu cruel, un peu méchant. Non, il rentre dans le concret, hein, il prêche la charité, notamment envers, comme je vous l'ai dit, les pauvres et les déshérités. Un grand admirateur de Saint Paul, je vous l'ai dit, il s'efforce d'interpréter sa doctrine. Et de tous les pères de l'Église du IVe siècle, il est par excellence le panégyriste de l'aumône. Son éloquence est inépuisable à renouveler ce terme. Il dit « Donne aux pauvres, donner aux pauvres, c'est donner à Dieu ». On entend ça encore aujourd'hui. Mettez Dieu au même rang que vos esclaves. Vous donnez par testament la liberté à vos esclaves. Eh bien, libérez le Christ de la faim, de la nécessité, des prisons et de la nudité. Et suivent ensuite des conseils précis et pratiques sur les formes de l'aumône, comme donner aux mendiants dans la rue, distribuer les restes de ses repas et surtout pratiquer l'hospitalité, les recevoir. Et en convertissant le riche à la pratique de la charité, Saint Jean Chrysostome le fait autant dans l'intérêt du riche que dans celui du pauvre. Car, dit-il, la charité a un double but, elle doit profiter autant à celui qui l'exerce qu'à celui qui la reçoit. Nous sommes vers la fin du IVe siècle, et il s'intéresse beaucoup aux esclaves, car il y avait des esclaves dans ce temps-là. Il y en avait qui étaient évidemment indisciplinés, frondeurs, Et il disait qu'il fallait les traiter avec douceur, plutôt que de les flageller. Il avait déjà un sens de la psychologie contemporaine d'aujourd'hui. Le recueil de ses homélies, car c'était un très grand prédicateur, je vous l'ai dit, ça forme un manuel complet de vie chrétienne. Ce que plusieurs livres, 7 volumes, je pense, dans la patrologie grecque de Ming, dans ces centaines de volumes des pères de l'Église, eh bien lui, il en occupe une grande partie. Et par le zèle, par l'activité, par la flamme de sa charité. Mais cet évêque est vraiment un apôtre. Même quand il est prêtre simplement, c'est un apôtre. Il aime les fidèles. Il se dévoue à leur salut. Il se décourage jamais. Par un contraste surprenant, d'ailleurs, son esprit reste mesuré et maître de lui-même. Il tombe pas dans les excès. Il sait captiver l'élite des âmes. Il instruit. Il les captive. Par son idéal très élevé, il sait proportionner ses exigences à la moyenne des fidèles, mais il est exigeant quand même. En ce même homme, il y a tout à la fois un zèle impétueux qui l'emporte et en même temps un sens pratique très sûr qui le ramène au réel. Il en est arrivé là progressivement. En sa première ferveur de moine, il semble qu'il avait renoncé pour toujours au monde. Il n'avait de satisfaction que dans l'ascétisme, mais il rentre à Antioche, dans cette grande ville. Il reçoit le sacerdoce. Il s'abandonne à nouveau à l'influence de l'évêque Mélès. Et au lieu de s'indigner du relâchement des mœurs et de la grossièreté générale des croyances, un peu comme dans notre Montréal d'aujourd'hui, mais il estime préférable de les corriger. Il gêne pas pour les corriger quand même, hein? Et cet ascète devient donc un apôtre, et la renommée de son éloquence et de ses vertus fait qu'à la mort de l'évêque Nectaire en 397, son nom est aussitôt prononcé par le favori de l'empereur. Il est acclamé d'une façon unanime dans l'assemblée réunie pour nommer un évêque à Constantinople, au cœur de cette église d'Orient. Et l'élection, approuvée aussitôt par l'empereur, est une surprise désagréable pour Théophile, patriarche d'Alexandrie en Égypte, qui aurait voulu placer un de ses prêtres nommé Isidore, et le patriarche néanmoins, pour ne pas déplaire à Eutrope qui est l'eunuque qui a mentionné le nom de Saint Jean Chrysostome, il fait semblant, cet évêque, d'accepter de bon cœur le fait accompli, consent même à sacrer Jean Chrysostome en février 398, et Jean Chrysostome se met à l'œuvre aussitôt, et montre que s'il a longtemps fui les honneurs, il est prêt quand même à en assumer toutes les charges. Et sa prédication est à Constantinople ce qu'elle a été à Antioche, même abandon et même affection de charité. C'est pas parce qu'il est évêque qu'il se met à ménager ses paroles, pas du tout. Il convertit des multitudes de païens et d'hérétiques, et dès le premier discours, bien s'établit entre l'évêque et son peuple une affection réciproque, et celle de Jean Chrysostome est celle d'un saint pasteur, un vrai pasteur, qui considère son troupeau comme sa famille. Et s'il constate un progrès moral, bien il manifeste sa joie. Un peu comme l'évêque de Valleyfield, qui dans une petite lettre récente a manifesté sa joie devant le fait qu'il y a beaucoup plus d'intériorisation dans son diocèse. Et s'il apprend la chute d'une seule personne, il en manifeste sa tristesse, Jean Chrysostome. Il se reproche cet égarement comme si c'était sa propre faute, et à ses yeux, bien la dignité d'évêque n'est qu'un engagement plus clair à être un saint. À ses yeux, la dignité d'évêque n'est qu'un engagement plus clair à devenir un saint. Le pasteur doit expliquer l'Évangile plus par ses œuvres, dit-il, que par ses paroles, et en offrir dans sa personne le résumé vivant. Difficile tâche que d'être évêque. Et après avoir employé sa journée aux œuvres de charité, bien il passe une grande partie de la nuit à l'étude de la Bible. Il aime surtout lire saint Paul, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on dit qu'il l'explique si parfaitement qu'on disait, des rumeurs j'imagine,
que saint Paul lui rendait visite pour lui découvrir le sens caché de ses écrits.
Pourquoi pas?
Pour ses occupations multiples, il aurait fallu à Jean Chrysostome une santé robuste, mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait rapporté du désert un estomac délabré. Il a été toute sa vie plutôt maladif, et malgré tout, il a continué à traiter son corps sans trop de ménagement. Son sommeil est plutôt court. 3 ou 4 heures chaque nuit seulement. 3 ou 4 heures chaque nuit. Il ne fait qu'un repas vers le soir. D'ailleurs, une espèce d'aversion pour la table. Évidemment, il a mal à l'estomac. Hein. Il fait supprimer tous les banquets luxueux. Il en arrive finalement à manger toujours seul. C'est peut-être son goût de moine. Hein. Pas grave, moi je mange presque toujours seul depuis 40 ans. C'est pas grave. On s'habitue, vous savez, à manger seul 3 fois par jour. Et sans méconnaître les devoirs de l'hospitalité, il retranche le luxe dans ses dépenses de sa maison pour augmenter le revenu des hôpitaux. Sa charité souhaiterait réaliser à Constantinople ce que les apôtres ont fait à Jérusalem et nourrir en commun tous les pauvres. Une belle et noble pensée, mais les persécutions et l'exil vont le forcer à abandonner tout ça. Et le souci de réformer son clergé, c'est une des sources des difficultés qu'il va bientôt rencontrer, car beaucoup de ses prêtres sont des esclaves de la cupidité et de l'égoïsme. Et souvent, la pureté de leur mœurs est plutôt compromise. Hein. Les uns ne travaillent que pour s'enrichir, les autres aiment la bonne chair, les bons repas, les gros restaurants, peut-être, comme on aurait aujourd'hui. Ils fréquentent volontiers la table des gens riches. Ils aiment être invités chez les gens qui leur servent des grands repas. Des bons vins qui coûtent le salaire d'une seule bouteille, coûtent le salaire d'une semaine à des pauvres. C'est horrible. Un autre abus plus révoltant est celui des sœurs, qu'on appelle les sœurs agapètes, c'est-à-dire, ça vient du mot agapé, amour. Sous prétexte d'assister ces vierges chrétiennes, puis de les défendre contre la violence, puis la rapacité des hommes qui courent après, bien, les prêtres logent ces personnes sous leur toit, mais ça devient un peu dangereux. Ils reçoivent d'elles, de toute façon, des soins de cuisine et d'entretien qui leur assurent, disent-ils, une plus grande liberté de servir Dieu. Et comme tous les esprits sages, bien, Jean Chrysostome voit un grand danger pour le célibat des prêtres. Il le combat toute sa vie, et à Antioche, il a signalé cet abus. À Constantinople, bien, il prend des mesures très énergiques pour réformer le clergé. On a rattaché à l'époque de son épiscopat, d'ailleurs, la composition de 2 beaux traités sur ce sujet, où il tient un langage franc, puis solide. Sa vérité à l'égard des vierges trop mondaines a été une des causes de la haine soulevée contre lui. Il en a été de même pour les veuves qui restaient dans le veuvage afin de mener dans le siècle une vie plus libre et plus agréable. Et l'évêque aurait préféré les voir contracter un nouveau mariage. Et parmi ces dernières, bien, il s'est fait 3 implacables ennemis qui, de concert avec l'impératrice Eudoxie, ont travaillé à sa perte. Et à Constantinople, bien, Jean Chrysostome se trouve encore aux prises avec des partis religieux, dont les principaux sont les païens, les ariens puis les novatiens. Alors, il a à combattre contre tous ces gens-là. Et un événement politique est encore pour Jean Chrysostome à Constantinople l'occasion d'un succès oratoire, analogue à celui d'Antioche. C'est la disgrâce d'Eutrope, cet esclave d'origine. Celui-ci était devenu le véritable maître de l'État. Pourtant, c'est lui qui avait favorisé la nomination de Jean Chrysostome. Et son orgueil, son avarice ont fini par le rendre odieux. Jean Chrysostome, dont il a favorisé l'élection, comme je vous dis, au siège de Constantinople, essaie, mais en vain, de lui faire des petites remontrances. Et l'esclave Eutrope n'en tient aucun compte. Un conflit surgit quand Eutrope veut abolir le droit d'asile reconnu aux églises. Vous savez, le droit d'asile qui est même pratiqué à Paris ces derniers temps, les gens qui se réfugient dans les églises. Eh bien, Jean Chrysostome proteste avec énergie contre cette mesure. Parce que le droit d'asile dans les églises est une chose sacrée depuis des millénaires. Et à peine Eutrope a-t-il fait adopter qu'un mécontentement général éclate contre lui à propos d'une rébellion. Et là, surgissent des tas de problèmes pour Jean Chrysostome. Et finalement, l'impératrice Eudoxie devant tous les complots qui sont tramés contre Saint-Jean Chrysostome, même si elle l'a soutenu et favorisé dans ses premières entreprises, eh bien, elle cède. Le changement vient de ce qu'après la chute d'Eutrope, l'esclave, l'impératrice Eudoxie devient toute puissante sur son mari Arcade, qui est un faible empereur. On n'en parle presque jamais, d'ailleurs. Puis elle commet des exactions analogues à celles de l'esclave Eutrope. Alors, la dispute prend et finalement, Jean Chrysostome est cité à comparaître. Il met des conditions qui sont rejetées, puis en conséquence, il est déposé, condamné à l'exil. Et l'empereur, le faible Arcade, confirme la sentence, signe le décret d'exil, et le peuple de Constantinople proteste. Saint Jean Chrysostome déclare qu'il céderait seulement à la force. Alors, il y a des agitations dans la ville. On réclame un concile plus nombreux pour annuler celui qui a condamné Jean Chrysostome, et des précautions sont prises pour faire partir Jean Chrysostome pendant la nuit. Eudoxie, l'impératrice, est épouvantée. Elle supplie l'empereur. Finalement, elle regrette de rappeler Jean Chrysostome, elle veut le rappeler. Le peuple en foule se porte vers le port pour recevoir son évêque, et celui-ci est porté en triomphe jusque dans la basilique, et dans une homilie, il résume les événements qui viennent de se passer. Et notre évêque et l'impératrice semblent réconciliés, mais le calme ne dure que 2 mois à peine. Eudoxie aspire aux honneurs divins. Elle perd un peu la boule, quoi. Une statue d'argent est élevée en son honneur, en face de la basilique Sainte-Sophie. Vous savez, cette fameuse basilique Sainte-Sophie, qui est devenue, depuis 1453, je pense, une mosquée à Constantinople, à Istanbul. Le fils divin est troublé par la dédicace qu'on en fait. Et l'évêque proteste. Il en résulte un nouveau mécontentement d'Eudoxie. Puis finalement, il part, il est exilé. Il est traîné sur le chemin de l'exil. Les amis fidèles qu'il laisse à Constantinople espèrent un jour lui être utiles, mais il leur faut reconnaître le lieu de la relégation, là où il va aller. Et Jean Chrysostome apprend enfin qu'on lui assigne pour résidence Cucuse, à l'extrémité de la Cappadoce, sur les frontières de la Cilicie, dans la petite Arménie, à l'autre bout du monde. Le pays est mal peuplé, le climat est rude, exposé à toutes sortes d'incursions de brigands. Et tout contribue ainsi à aggraver sa peine. Et c'est sans doute le résultat d'un plan combiné par Eudoxie finalement, qui a encore une fois changé d'idée, puisqu'elle a été condamnée par Jean Chrysostome pour s'être fait édifier une statue d'argent. Et les lettres adressées par Saint Jean Chrysostome à Olympiade et à ses amis permettent de suivre jour par jour les péripéties de ce voyage absolument pénible à travers l'Asie mineure. Il y a des stations où il peut se reposer un peu, mais les autres sont des sources d'ennui. À Nicée, où il y a eu le fameux concile de Nicée, il peut respirer pendant 4 semaines. Puis, il se reprend d'enthousiasme pour évangéliser. Il s'est toujours intéressé à évangéliser. Il écrit à un prêtre pour demander qu'on le tienne au courant du progrès des missions à Antioche. Quoique affligé tout d'abord d'avoir Cucuse pour résidence, il se résigne bientôt, prie ses amis de ne faire aucune démarche pour obtenir un changement. Le voyage a été pénible jusqu'à Césarée de Cappadoce. Il a eu la fièvre. C'était très mal reçu par certains évêques. Il a été très mal reçu. Mais finalement, d'autres acceptent de le recevoir cordialement. La dernière partie du voyage s'effectue sans difficulté notable. Comme l'ont écrit certains auteurs de l'époque, le voyage a duré 70 jours. Et puis, finalement, Eudoxie meurt, l'impératrice, et l'état de santé de Jean Chrysostome a eu beaucoup à souffrir du séjour à Cucuse. Il a envoyé à la forteresse voisine d'Arabissos des messages parce qu'il va s'y rendre. Il était dévoré par un grand besoin d'activité. Alors il s'intéresse au succès des missions, des endroits où il est passé, parce qu'il a prêché un peu partout. Il rêve de convertir la Perse, toujours un apôtre, jusqu'à sa mort. Il fait également sentir son action à Constantinople et à Antioche. Il parle même de très loin. Il se fait entendre jusqu'à un certain point par des intermédiaires et des amis fidèles ont cherché finalement une nouvelle résidence sur la côte orientale de la mer Noire. Il a fallu traverser toute l'Asie mineure, du sud au nord. Le voyage est lent à travers la Cappadoce et aux premières semaines de septembre, on arrive dans une petite ville, Comane, et Jean Chrysostome passe la nuit dans la chapelle d'un martyr qui a un nom curieux, qui s'appelle Basilique. Il croit voir en songe Saint Basilique, qui lui dit « Console-toi, frère, demain nous serons réunis. » Le lendemain, après une marche d'une heure, il faut le ramener à cette même chapelle, où après avoir communié, il expire en prononçant ces mots, le 14 septembre 407, « Gloire à Dieu pour toutes choses. » La mort de Saint Jean Chrysostome ne ramène pas immédiatement la paix dans l'église de Constantinople. À peine la mort de Jean Chrysostome à Comane est-elle connue que les moines, les solitaires des environs, viennent en foule lui rendre les derniers honneurs. Il est enseveli à côté du martyr Saint Basilique. On l'honore aussitôt comme confesseur de la foi. Cependant, il y a l'envie de ses ennemis qui s'attache à effacer son souvenir. Mais finalement, à Constantinople, sous Théodose le Jeune, il y a la réparation qui est faite à sa mémoire. Et en 438, pas, il est mort en 407, donc 31 ans plus tard, en 438, le 26 septembre, la fête de Saint-Jean Chrysostome est célébrée. Et retenez bien cette date, le 27 janvier 438. On fait fête, on avait fait la translation du corps de Saint-Jean Chrysostome de Comane à Constantinople. Ça avait été fait le 27 janvier. Et la date du 27 janvier a été adoptée pour la fête de Saint-Jean Chrysostome, tant en Orient qu'en Occident, tant chez les Grecs, les orthodoxes, que chez nous, les Latins, les catholiques. Mais depuis le Concile, nous, les Latins, nous fêtons aujourd'hui la fête de Saint-Jean Chrysostome, puisque c'est la fête de son entrée au ciel, ce qu'on appelle le Dies Natalis, le jour de la naissance, de cette grande naissance qu'est la mort. Notre naissance, quand nous sommes sortis du sein de notre mère, est une toute petite naissance. Mais quand nous sortons du sein de cet immense univers, eh bien pour entrer dans l'autre univers, c'est cette grande naissance, c'est le Dies Natalis. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui pour Saint Jean Chrysostome. Dans la 26e homélie sur l'Épître aux Hébreux, Saint Jean Chrysostome écrit, Si nous voyons toujours Dieu avec les yeux de notre esprit, si notre pensée se porte sans cesse à se souvenir de lui, tout nous paraîtra facile et léger. Nous supporterons tout. Nous serons supérieurs à tout. Si celui qui se souvient de son ami relève son courage et se réjouit à son souvenir, comment celui qui se rappellera le Dieu qui a daigné nous aimer vraiment pourra-t-il être triste ou effrayé ou craindre le danger? Et dans une homilie sur l'Épître aux Romains, il prêchait beaucoup sur les Épîtres de saint Paul, comme vous voyez, il dit, « Mais tu me diras, Dieu est bon. Alors, le riche qui a méprisé Lazare, vous savez, Lazare qui était à la table du riche dans les évangiles, c'est Jésus qui nous parle de ça. Alors, le riche qui a méprisé Lazare, les vierges étourdies rejetées par le Christ, et les vierges folles là, qui n'ont pas entretenu leurs lampes, les vierges étourdies rejetées par le Christ, tout cela n'est que parole en l'air? Alors ceux qui n'auront pas nourri le Christ n'iront pas au feu éternel préparé pour le diable? Serait-ce là pure menace divine sans effet? Bien sûr, me dis-tu. Et d'où te vient-il donc, s'il te plaît, cette audace de proférer en public de pareilles choses et de donner en ton nom propre pareille opinion? Je vais, moi, te prouver que tu te trompes à partir des paroles mêmes de Dieu et de ses façons d'agir. Si tu ne crois pas à cause de l'avenir, crois à cause du passé, car le passé accompli n'est ni pure menace ni parole en l'air. Qui donc, par le déluge, a transformé la terre entière en étang? Alors, c'est les anciennes prédications de cette époque. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus modernes, comme si je suis juste, me dira peut-être l'un de vous. Quel besoin ai-je de prier, puisque la justice suffit à me faire agir droitement, et que celui qui doit m'exaucer sait bien ce qu'il me faut? Alors pourquoi prier? Parce que la prière n'est pas le moindre des liens de l'amour qui nous relie à Dieu. Elle nous habitue, c'est très beau ça, elle nous habitue à converser avec lui. Elle nous conduit à aimer la véritable sagesse. Qui fréquente assidûment un personnage remarquable par ses qualités tire le plus grand profit de cette fréquentation, et combien plus celui qui est constamment dans la société de Dieu. Celui qui prie reçoit de grands biens de sa prière, disait saint Jean Chrysostome, avant même de recevoir ce qu'il demande. La prière calme les troubles de l'âme. Elle apaise la colère. Elle chasse la jalousie. Elle éteint la cupidité. Elle diminue et dessèche l'attachement au bien de cette terre. Elle met l'esprit dans une paix profonde. Et en fin de compte, elle élève l'âme jusqu'au ciel. Et enfin, quand tu as péché, pleure ta faute. Non parce que tu en seras châtié, ce qui n'est pas une raison, mais parce que tu as offensé ton Seigneur si bon, si aimant, si soucieux de te sauver qu'il a livré pour toi son propre Fils. Gémis donc pour cette raison, et gémis sans cesse. Lire saint Jean Chrysostome, ça vaut la peine, dans un vieux livre publié il y a plus de 30 ans aux éditions Vrière par Henri Tardif. Dans la collection Église d'hier et d'aujourd'hui, il y a ce Jean Chrysostome que j'ai lu et relu. C'est magnifique, très beau petit livre de quelques pages, admirable. Je vous le recommande si vous le trouvez dans une bibliothèque.